d'histoires et contes.
Une bûche de Noël. Sous une averse naissante, le gros Lulu se dirigeait en boitillant vers sa place habituelle. La poste, depuis pas mal d'années, constituait son territoire central et personne ne venait plus le lui disputer. Au moins, devant l'entrée, il était à l'abri. De temps à autre, lorsqu'un homme ou une femme lui paraissait avenant ou qu'il percevait chez un passant une générosité mal enfouie, il leur ouvrait la porte dans l'espoir de recevoir quelques pièces à la sortie. Petit Jérôme lui tenait parfois compagnie. Pas très grand, d'humeur égale, il subissait le quotidien sans se plaindre. Le gros Lulu l'aimait bien. Son allure relâchée lui rappelait un peu son fils. Son fils, bientôt 8 ans qu'il ne l'avait pas vu. Quelle tête avait-il maintenant ? Gros Lulu avala une gorgée de rouge pour chasser cette idée qui le hantait chaque jour. Il en avait assez. Depuis quelques jours, l'idée de dormir au foyer le rebutait totalement. Le froid arrivait, mais qu'importait ? Ce dortoir peuplé d'épaves n'était plus supportable. Autant de miroirs, d'images déformées de ce qu'il était devenu. Non, il voulait rester seul avec lui-même, désormais, même si le printemps prochain devait fleurir sans lui. Le printemps, les arbres qui se couvrent de bourgeons, les troncs qui se raffermissent, le chant des mésanges et des rouges-gorges, il savait toujours les reconnaître. D'un geste automatique, il porta à nouveau la bouteille à ses lèvres. Enterrer son passé, fuir le présent, nier l'avenir, là était son but. Et la meilleure façon, n'était-ce pas de laisser l'alcool brûler dans ses veines ? Un camion de bois de l'après-guerre pénétra dans la rue avec un bruit de bateau de pêche. On avait chargé l'arrière d'un monceau de bûches qui dépassait largement le toit de la cabine. Le véhicule était lourd, beaucoup trop pour la rue devenue glissante, et le chauffeur zigzaga pour reprendre la ligne droite après la courbe. Quelques bûches s'échappèrent de la cargaison et roulèrent dans la rue. « Merde, en plein sur ma jambe, le con !» gémit le gros Lulu. « Bah, de toute façon, pour ce qu'elle vaut, ta guibole, » plaisanta petit Jérôme. Gros Lulu souffla en sa direction comme un phoque malade. Quelques années plus tôt, une voiture l'avait renversé et la fracture qui en avait résulté ne s'était jamais bien remise. Il voulut attraper le goulot de la bouteille qui lui avait échappé des mains, mais un cri lui jaillit des lèvres. La douleur au tibia était trop forte. « Putain de merde, manquait plus que ça, saloperie de bûche » grommela-t'il. À l'aide du rondin qu'il avait empoigné, il tenta de faire rouler la bouteille dans sa direction. Mais, tel un pépin jaillissant entre le pouce et l'index, son côte du Ventoux partit comme une fusée vers le caniveau où il disparut dans un avaloir d'eau usée. « Tout ça à cause de ce fichu morceau de bois, » gémit Gros Lulu. « Attends un peu. » Il sortit son canif et, de rage, arracha une pelure d'écorce grosse comme la main. Puis une autre, et encore une autre. « On dirait du hêtre, » lâcha-t-il. « Le bois est clair, bien veiné. » Gros Lulu l'attaqua de plus belle. C'était dur et il donnait de grands coups de couteau dans la chair de ce qui avait été un tronc de 80 ans. Petit à petit, sa colère s'épuisa. Il contempla le carnage qu'il avait opéré sur cette bille de bois. Une larme roula sur sa joue droite. « Autrefois, » murmura-t-il. Lentement, il caressa le fil du bois. Tant de souvenirs étaient reliés à ce contact. Il approcha la bûche de son nez et la sentit longuement. Quel plaisir ! « Qu'est-ce que t'as ? Tu pleures maintenant ?» lui demanda petit Jérôme. « Laisse, » grogna-t-il. Puis, se tournant vers lui, « T'étais quoi, toi, avant ?»« Avant ? Ben, pâtissier. » être pâtissier plutôt. Les pains au chocolat, les tartes aux fraises, les crèmes pâtissières, tout ça, c'était mon rayon. Je savais tout faire. J'étais un peu plus épais qu'aujourd'hui. Moi, j'étais menuisier, déclara Gros Lulu. Il était beau, mon atelier. J'avais des machines, 3 employés. Ça tournait. On en a fabriqué, des tables, des chaises, des volets. On en a placé de la frisette. J'ai même réparé des meubles anciens. Si ma femme n'avait pas voulu divorcer, moi, c'est le patron qui a coulé. Contrôle fiscal. Il nous faisait travailler en partie au noir. On l'a redressé. Un peu trop. Il a fermé et nous a tous virés. J'ai retrouvé une place quelque temps, puis plus rien. Gros Lulu avait plongé une fois de plus dans ses souvenirs. L'année qui avait suivi son divorce, où il avait recherché un emploi en vain et dépensé tout son argent, puis la chute libre. Cette fois, plus de bouteilles pour faire diversion. Face à l'urgence, il essaya de se lever, mais sa jambe le lançait encore. Merde, plus de coco, ça va mal. Les souvenirs affluaient comme une rivière en crue. Oui, il avait fait une bêtise. Il n'aurait pas dû se taper la stagiaire. Un faux pas. De là à l'obliger à vendre l'atelier. C'est vrai, Héloïse, sa femme, avait investi un joli paquet dans l'entreprise. Mais tout reprendre, comme ça, et son fils, et sa fille. Gros Lulu laissa couler un flot de larmes. Combien de fois ses pensées ne l'avaient-elles pas torturé? Ce faisant, il continuait à tailler machinalement sa bûche. Progressivement, une figure émergeait. Il maniait le couteau comme un professionnel et, tandis que le calvaire qu'il avait enduré défilait devant ses yeux, la forme s'affinait. « Eh, c'est pas mal ce que tu fais !» reconnut Jérôme en se penchant vers lui. « Patouche !» Lulu ne pleurait plus. Très concentré, il fignolait son œuvre. La paume de sa main passait et repassait sur les courbes comme pour mieux vérifier son travail. Il la tournait et retournait, bras tendus, afin d'en discerner les imperfections. Puis, un coup de couteau par-ci, par-là, avant de recommencer une nouvelle inspection. Le reste de la journée fut consacré à sa création. Quand ce fut fini, il posa la statuette devant lui sur le trottoir et la regarda. C'était ça. C'était vraiment ça. Son envie de boire était passée. Il contemplait sa création noyée dans ses rêves. De temps en temps, un passant jetait une pièce dans sa casquette. C'était à peine s'il s'en rendait compte. Comme tous les soirs, malgré la bruine qui persistait, Madame Morin promenait Cador. Comme tous les soirs, elle passa devant l'épicerie Monceau, la boulangerie Tartonne et le Crédit Lyonnais. Devant la poste, Cador s'immobilisa. Il avait flairé quelque chose d'anormal. Madame Morin tira sur la laisse. Cador se raidit. Sa maîtresse donna un coup sec, mais Cador s'arc-bouta. Madame Morin tourna la tête et remarqua enfin Lulu, le regard absent, et devant lui la statuette qui fascinait Cador. « C'est donc ça. Fais voir, » dit-elle à son chien. Madame Morin s'accroupit et approcha son nez à une main de l'objet, car sa vue était assez basse et l'endroit faiblement éclairé par le réverbère. « Pas mal, » reconnut-elle en se relevant. « Pas mal du tout, même. C'est combien ?»« C'est combien ?» articula-t-elle plus fort. Lulu émergea de sa rêverie et considéra la personne qui lui parlait. Une vieille dame en manteau gris, attachée à un teckel à poils longs. Pour la première fois depuis 8 ans, il eut envie de rire. « Ce n'est pas à vendre. D'ailleurs, ça n'a pas de prix. »« 100 francs, peut-être ?»« Ça n'a pas de prix. »« 500 francs, alors. » »« T'entends ça ?» intervint petit Jérôme. « 500 francs. Mais t'es fou ou quoi ? C'est ce qu'on gagne en un mois. » Lulu hésita. « Allez, elle est à vous, » marmonna-t-il. Lulu, petit Jérôme et le David, qui les avaient rejoints pour l'occasion, dormait repu sous le porche de l'église. Une orgie pareille ne s'était pas produite depuis des lustres. Ils avaient même pu s'acheter une couverture et dormaient côte à côte, tous les trois enfouis dessous, le rosé de bandole irradiant leurs veines. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Lulu se réveilla avec une terrible gueule de bois. Qu'avait-il fait? Pourquoi avait-il cédé son œuvre comme une vulgaire marchandise? S'emparant d'une bouteille, il en fit sauter le bouchon et attaqua la journée. Il ne tiendrait plus longtemps, c'était certain. Vers midi, une langue chaude qui lui léchait le visage le tira de son sommeil. Ouvrant un œil, il reconnut le chien de la vieille dame. « Monsieur !» s'exclama celle-ci tout excitée. « Où aviez-vous trouvé cette statuette ?»«
C'est lui qui l'a fabriquée, madame, » répondit le David. « C'est un as !»«
On dirait. Pourrait-il en réaliser une autre, ou deux ?»«
Si vous lui arrachez son litron, peut-être. »
Une heure plus tard, madame Morin revint, poussant devant elle son caddie à provisions. D'un geste sec, elle arracha la bouteille des mains de Lulu qui la dirigeait vers sa bouche. « Pourriez-vous me sculpter deux nouvelles statues dans le même style ? » demanda-t-elle d'un ton autoritaire.
« Peut-être, » dit Lulu désarçonné.
« Demain ? » ?»«
Peut-être bien. »
Madame Morin sortit de son caddie deux beaux morceaux de bois qu'elle tendit à Lulu. « Ma fille est antiquaire. Elle a exposé votre statue en vitrine. Un quart d'heure après, elle était vendue. Il faut vous mettre au travail. Comment vous appelez-vous ? »
Lucien.
Alors, Lucien, je repasserai demain à la même heure. Lucien sortit son canif, l'aiguisa tant bien que mal sur la grille de l'église et commença à tailler le premier morceau de bois. C'était du beau buis, bien dense, un arbre de plusieurs siècles sans doute. Il se mit à chantonner. Ça allait vite, ses gestes d'antan lui revenaient et il découvrait d'instinct les faiblesses du matériau à exploiter, le fil et les variations de couleurs à mettre en valeur. De temps en temps, petit Jérôme lui proposait une tranche de pain ou une gorgée de rosée, mais il secouait la tête. Les gens s'arrêtaient pour le regarder. Vers 5 heures du soir, se forma un petit attroupement. Sa première réalisation était presque achevée et les passants restaient là, subjugués devant la précision de ses incisions. Lucien était indifférent. Sa casquette vissait sur la tête. Les pièces pleuvaient sur le sol autour de lui. Peu importait. Petit Jérôme et le David se servaient pour aller s'approvisionner. Ils semblaient ne rien voir. En fin d'après-midi, sans faire de pause, il attaqua la deuxième bille, lui donnant une autre forme, plus masculine, et son travail l'absorba encore une partie de la nuit. Vers minuit, il replia enfin son canif, ce canif qu'il n'utilisait plus que comme tire-bouchon ces derniers temps. Il avait travaillé 12 heures d'affilée. Après s'être allongé, il s'endormit d'un coup, comme cela ne lui était plus arrivé depuis des années, les statues serrées contre lui sous la couverture. « Monsieur Lucien, dit la voix de la dame, ce n'est pas bien de vous mettre dans cet état. » Lucien émergea, vit la vieille dame et son chien, sourit et présenta les deux statuettes. À la lumière du jour, un relief nouveau les revêtit. Elles semblaient presque vivantes, tant elles étaient expressives. « Voilà vos 1 000 francs, monsieur Lucien. »«
Je n'en veux pas. Je les garde. »«
Vous en referez d'autres. Elles ne sont plus à vendre. »«
1 500 francs, alors. »
Le David et petit Jérôme intervinrent. « Et comment qu'il va en refaire ? On ne va plus le lâcher. Prenez-les, ces statues, on va bien lui trouver du bois. On a de quoi bouffer pour 2 mois. » À contre-cœur, Lucien confia ses œuvres à madame Morin. L'âme lourde, il la regarda partir et se vengea sur une bouteille de rosée. Dans l'après-midi, la vieille dame revint accompagnée d'une jeune fille.
« C'est lui, » dit madame Morin.
« C'est ma petite fille, » ajouta-t-elle à l'adresse de Lucien.
« Monsieur, dit la jeune fille, vous avez du talent, beaucoup de talent. Vous devez l'utiliser. On a décidé de vous faire confiance. Ma mère et moi, vous commandons 50 statuettes de la même facture que les 3 premières que vous avez sculptées. » Lucien la regarda comme si elle était folle. « 50 ? En combien de temps allait-il faire ça ?»« 30 000 francs pour commencer, ça vous irait ?»« Et comment ? » dirent les deux autres. « À ce prix-là, on vous construit la tour Eiffel. »« Alors, suivez-nous, on a besoin de vous aussi. » Monsieur Lucien, Lucien comment au fait ?
Lucien Debarre.
Monsieur Debarre, nous avons une pièce dans l'arrière-boutique. Je pense qu'elle ferait un atelier convenable. Cela vous intéresse-t-il ?
Lucien Debarre était trop abasourdi pour répondre. Il hocha la tête malgré lui et se mit à les suivre sans avoir bien compris. À l'atelier, David et Jérôme se chargèrent de l'approvisionnement en bois de toutes sortes. Madame Laplaine, l'antiquaire, avait exigé que toutes les statuettes soient taillées dans des essences différentes. Les sculptures se vendaient au fur et à mesure de leur réalisation. Bientôt, il fallut étendre le réseau et on les distribua dans toute la région. David Legendre et Jérôme d'Albeauville travaillaient maintenant à écorcer puis dégrossir le bois, tailler les billots à la bonne taille et enlever les premières couches. Lucien Debarre peaufinait. Quelque temps plus tard, on organisa une exposition à l'hôtel de ville. Jérôme d'Albeauville, pour l'occasion, avait préparé des gâteaux aussi variés que les essences de bois utilisées. La presse vint. Dans les journaux, on parla du grand Lucien Debarre. « Quelqu'un vous demande dans la boutique ?» vint lui dire Ariane Laplaine. Le grand Lucien Debarre reposa ses outils à contre-cœur. Il aimait son travail et ne s'en lassait plus. En ronchonnant, il se faufila entre les tables Louis XVI et les buffets Napoléon III. « C'est cette jeune femme, » lui indiqua Ariane. Le grand Lucien Debarre contempla le visage qu'il avait devant lui. Il se raidit, le souffle coupé. Ce visage avait les mêmes traits, la même courbure, la même beauté que celui de ses statues. C'était elle, c'était sa fille. « Marianne ? » murmura-t-il. L'inconnu s'approcha et se blottit dans ses bras. Le grand Lucien Debarre lâcha le barrage qui l'oppressait depuis tant d'années et pleura en laissant déborder un torrent de haute montagne. « Maman est dans la voiture, » dit-elle, « avec François. » Le grand Lucien Debarre sortit. Sur le trottoir, debout, dans le froid, il les reconnut, vieillis, changés. Ils avaient l'air tristes. Le grand Lucien Debarre plongea son regard dans celui de sa femme. Il demeura ainsi, ses yeux dans les siens, son âme dans la sienne, un moment d'éternité. Alors, il sut qu'elle lui avait pardonné. Et tout ce qu'elle avait souffert pendant ces 8 années, il le lut aussi. Il n'en parlerait pas. Maître Lucien Debarre avait maintenant ouvert son propre atelier. Sa femme et sa fille s'occupaient de la vente. 4 employés travaillaient avec eux. Le maître queue, Jérôme d'Albeauville, et son maître d'hôtel, David Legendre, avaient repris en gérance le logis du Thym, autrefois renommé. Ils comptaient obtenir leur 4e étoile cette année-ci. Leur mobilier, entièrement créé dans les ateliers du maître Lucien Debarre, qui leur avait prêté les fonds pour s'installer, avait été particulièrement apprécié par le guide. Mais ce qui leur avait valu leur premier classement, c'était leur grande spécialité, leur bûche de Noël, qu'ils servaient en toute saison.